Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Moi, je suis arrivée avec une colère, avec des déceptions. J'avais cette sensation de détricotage. Là, je repars avec des réponses.
L'urgence climatique dans la Constitution, Emmanuel Macron propose aux Français d'en décider par référendum. Il l'a annoncé hier aux membres de la Convention citoyenne. Nouvel épisode de la série Déconfinement. Aujourd'hui, place au couvre-feu à 20h. Une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs qui feront moins de ventes à emporter. Dans ce journal, la pêche, gros dossier qui fâche dans les négociations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous serons de part et d'autre de la Manche pour voir ce qu'en pensent les professionnels. Et puis la bataille du calendrier en vue du mondial de rugby en France. Les villes se disputent les plus belles affiches.
Juste après ce journal, l'Union européenne qui tord le bras aux géants du numérique, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, les All Blacks pour le 15 de France, meilleur tirage possible pour Virginie Fulpin dans l'édito sport, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La défense du climat et la préservation de l'environnement pourraient donc figurer dans la Constitution. C'est l'annonce choc d'Emmanuel Macron hier soir.
Si l'Assemblée et le Sénat disent oui, la réforme sera soumise au référendum. C'était l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne. Deux de ses membres se félicitent qu'elle ait finalement été reprise par le président.
On a mis le président au défi justement de faire ce référendum sur la modification de l'article 1. Parce que nous, on considère que les Français doivent pouvoir donner leur avis sur à quel niveau ils mettent l'environnement, la biodiversité, le climat dans leur quotidien et à quel niveau ils veulent mettre dans leur pays. Donc voilà, on demande un référendum sur cet article 1 et le président a simplement répondu oui. Donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là.
Moi, je suis arrivée avec une colère, avec des déceptions. J'avais cette sensation de détricotage. Là, je repars avec des réponses. En tout cas, ça a été des réponses entendables, avec des arguments que je n'avais pas imaginés, donc c'est du plus. Après, je resterai vigilante.
Voilà, des propos recueillis par Claudia Bertram.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Personne ne s'attendait à cette annonce hier soir, pas même les membres de la Convention. Pour vous, c'est un coup de poker du président, un quitte ou double.
Et oui, effectivement, on le sait, Emmanuel Macron aime prendre des risques, piégé par l'ambiguïté de sa promesse de reprendre toutes les propositions de la Convention citoyenne sans filtre, c'était les mots du président. Je vous rappelle, eh bien, il fallait frapper fort. Il a donc abattu sa dernière carte pour calmer la colère des membres de cette convention. L'enjeu est de sortir de ce face-à-face avec les 150 citoyens à qui il a confié le soin de réfléchir sur la transition climatique. Je vous rappelle, c'était son idée à la sortie du grand débat après la crise des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, eux d'ailleurs, réclamaient un référendum. Une demande écartée à l'époque par le président de la République. Aujourd'hui, la situation est différente. Il s'agit de reconquérir l'électorat écologiste pour 2022. Mais ce référendum pour inscrire le climat dans la Constitution, c'est aussi le risque de voir transformer ce scrutin en vote pour ou contre Emmanuel Macron.
Voilà, quitte ou double de qui nous est résumé par Mickaël Darmon, le chef du service politique d'Europe 1. La politique encore, avec ce sondage Odoxa pour la presse régionale dévoilé ce matin. Il brosse une image assez peu flatteuse du Premier ministre Jean Castex. 55% des Français ne le jugent pas compétent, 65% pas charismatique et même 72% ne lui voient pas d'avenir en politique.
Le Premier ministre, ce matin, sur Europe 1, c'est l'événement, je vous le disais, de 8h15 à 8h45, une demi-heure avec Jean Castex, interview de Sonia Mabrouk tout à l'heure sur Europe 1. Il est 7h03. On oublie les attestations dans la journée. Aujourd'hui, on peut désormais se déplacer comme bon nous semble.
Et oui, en revanche, après 20h, on reste à la maison. C'est le couvre-feu, une mesure qu'appréhendent les restaurateurs. Fini les plats à emporter après cet horaire. Seules les livraisons restent autorisées. Ça veut dire encore moins de clients à Strasbourg. Arthur Elmbaché.
Le peu qui lui reste, c'est ça, la vente à emporter.
Très souvent, le gros rush, c'est entre 20h et 21h.
C'était le rush, puisque dès ce soir, plus le droit de sortir. Après 20h, interdiction d'aller chercher son plat dans le restaurant de Yann au centre-ville de Strasbourg.
J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à ça près. Pour nous, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle.
Non, stop, pourquoi ?
Voilà ce que Matteo de la pizzeria chez Gepetto pense, lui, du couvre-feu.
C'est vraiment très, très tôt. Avant 20h, 4-5 pizzas, 2-3 pâtes, mais après 20h, c'est plus. C'est ça le problème. S'ils nous coupent encore ça, c'est foutu, quoi.
Les gens vont peut-être se rabattre sur les plateformes de livraison à domicile.
Ils prennent 30% quand même. Donc, une pizza emportée coûte 7 euros. Si elle est en livraison, moins 30%, ça fait 2,10€ de moins, donc ça paye pas beaucoup.
Il y avait une case pour aller chercher à manger, ils pouvaient laisser la case pour aller chercher à manger.
Jacques Chomantowski de l'UMI 67 voudrait modifier la nouvelle attestation de sortie.
On reste pas dans le restaurant, on reste pas dans la rue, je trouve ça grotesque, voilà. Donc ce que j'aurais aimé, c'est que ça soit au minimum à 21h30.
On est les seuls, dit le restaurateur, à être moins bien traités après le confinement que pendant. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe 1.
Et à propos de la nouvelle attestation, pour bouger après 20h, il faudra une bonne raison professionnelle ou médicale, notamment. De son côté, le monde de la culture dénonce une mise à mort et réclame le droit de rouvrir salles de spectacle, musées et cinéma. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes, notamment à Paris.
Bataille navale en vue entre pêcheurs français et britanniques. C'est le dossier qu'on ouvre ce matin dans ce journal.
Oui, la pêche est en effet le gros point de blocage dans les négociations qui se tiennent en ce moment entre Londres et Bruxelles. Les Français effectuent 30% de leurs prises dans les eaux britanniques et même 90% pour les chalutiers des Hauts-de-France. Le sujet est hypersensible de part et d'autre de la Manche. Johanna Chabas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Hastings, port de la côte sud de l'Angleterre. En cas de no deal, dès le 1er janvier, les Anglais comptent déployer la grosse artillerie.
Oui, 4 patrouilleurs de la Royal Navy, des navires de 80 mètres de long sont déjà prêts. Ils ont tout leur armement, même s'il n'est pas prévu qu'ils l'utilisent sur les chalutiers de l'Union européenne. Mais la marine aura le pouvoir d'arrêter, d'inspecter et même de confisquer les bateaux européens. Graham Dorswell, pêcheur et fondateur de l'association des chalutiers ici, espère que ce projet se réalisera.
Je vois mal la marine harponner des chalutiers français. Mais ils ne peuvent pas avoir le droit de juste ignorer la loi. Ça fait 4 ans qu'on prévient qu'on quitte l'Union européenne. Les autres pêcheurs européens auraient dû s'y préparer. Ça paraît peut-être dur ce que je dis, mais s'ils font des choses illégales, alors ils seront punis.
Ces 4 patrouilleurs font en fait partie d'un plan bien plus large de surveillance des côtes britanniques. 14 000 militaires sont prêts à être déployés et des hélicoptères de l'armée pourraient être aussi utilisés.
Johanna Chabas, vous restez avec nous. On va partir à Port-en-Bessin, dans le Calvados, où le moins qu'on puisse dire, c'est que les pêcheurs sont très inquiets. On est côté français, là, on écoute le reportage de François Coulon.
À Port-en-Bessin, ce sont les 10 chalutiers les plus gros, plus de 20 mètres, tarifs plusieurs millions d'euros, qui redoutent le no-deal, Dimitri Rogoff, président du comité des pêches de Normandie.
Tous ces bateaux-là, c'est des bateaux qui pêchent côté anglais plus de 50% de leur temps. En moyenne, c'est 70%, donc ils sont vraiment dépendants de ces zones-là. Ça peut devenir un drame.
Jean-Baptiste Houchard vient d'investir dans un bâtiment hauturier de 25 mètres de long.
C'est très inquiétant. On est vraiment dans l'inconnu et ça fait très peur. Moi, je me suis engagé à hauteur de 3,5 millions d'euros. C'est considérable. Je vois, quand le thon a été interdit en Atlantique, c'est des flottes de bateaux qui ont dû cesser carrément leur activité. Il y a eu des drames terribles.
Et vous craignez ça ?
Bien sûr, on y pense.
Le déploiement dans la Manche de bateaux armés de la Royal Navy passe très mal ici.
Des bateaux de guerre, au moment où on cherche un accord, faire sonner le canon, c'est irresponsable. Il n'y aura pas de bataille navale, on ne tient pas à ce qu'il y ait des accidents. Donc s'il doit y avoir une rétorsion, elle sera à terre, sur les importations. On bloquera les camions pour pas qu'un kilo de poisson anglais touche le sol français.
76% des poissons britanniques sont exportés, essentiellement dans l'Union européenne. Un blocus serait la pire des ripostes. Port-en-Bessin, François Coulon, Europe.
Alors Johanna Chabas, est-ce que les Anglais ont vraiment peur de ce blocus, peur de ne plus pouvoir exporter leur pêche vers l'Union européenne ?
Oui, c'est une inquiétude. Ici, le pêcheur que vous avez entendu tout à l'heure me dit être prêt à voir des manifestations en France, des cargaisons entières jetées à la mer. Mais selon lui, il y aura toujours une demande pour le poisson britannique. Et donc, au bout de peut-être 1 ou 2 ans, il espère que tout se calme pour à nouveau vendre tranquillement ses prises.
Johanna Chabas, en direct du port d'Hastings, sur la côte sud de l'Angleterre. Manifestation de policiers cette nuit devant l'Arc de Triomphe à Paris. Ils étaient une centaine, gyrophares allumés, pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles aux faciès et les violences policières. Et puis Joe Biden invite l'Amérique à tourner la page. Hier soir, les grands électeurs ont entériné sa victoire à la présidentielle américaine.
Le rugby, le 15 de France, affrontera donc les All Blacks dès la phase de groupe de la Coupe du Monde en 2023. C'est le résultat du tirage au sort d'hier.
Reste à savoir quand le match se jouera, dans quelle ville. Ce matin, on vous emmène dans les coulisses de ce mondial pour découvrir un travail de l'ombre, l'organisation des matchs. Et c'est loin d'être simple. Simon Rubin.
La France doit-elle jouer les blagues d'entrée histoire de profiter d'un formidable produit d'appel pour passionner le public ou, comme le préférait Fabien Galthié, attendre le deuxième ou troisième match ? Cette décision-là sera l'objet d'âpres discussions entre l'organisation et le staff des Bleus. Et ce n'est qu'un exemple. De fait, Tout le calendrier va faire l'objet d'une espèce de grande négociation. Chaque ville veut accueillir les meilleures équipes, évidemment, et même les nations participantes ont leurs préférences. Claude Haché, qui gère l'organisation, va devoir arbitrer.
Les Gallois, ils ont envie d'aller jouer à Nantes, parce que la culture celtique, les échanges, donc eux, ça les intéresse. Les Écossais aimeraient bien jouer à Saint-Étienne. Les Irlandais aimeraient bien jouer à Bordeaux. Les Italiens à Nice. On va essayer de mettre en place un Rubik's Cube pour à la fois essayer de donner satisfaction aux équipes, aux villes, qui ont besoin d'avoir des matchs attractifs. Alors, ça va être une discussion animée, hein, c'est sûr, parce que toutes les villes voudraient l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande.
Et par exemple, pour faire accepter à une ville d'avoir un ou deux matchs peu attractifs, eh bien, l'organisation lui offrira une affiche de rêve en compensation. Ça marche comme ça, et le calendrier devrait normalement être terminé à la fin du mois.
Simon Rubin, et puis il y a du changement en tête du Vendée Globe. Thomas Ruyant mène désormais la flotte. Charlie Dalin, qui était jusqu'ici en tête, a eu des soucis avec son foil qui permet au bateau de se soulever au-dessus de la mer, eh bien il est désormais relégué à la troisième place.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1, 7h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une jeune fille entrée dans l'histoire la semaine dernière. Elle a 15 ans, elle s'appelle Gitanjali Rao, elle est américano-indienne. C'est la première enfant à être désignée Kid of the Year, enfant de l'année par le magazine Time. À 15 ans, c'est une jeune scientifique qui combat la pollution des eaux ou le harcèlement en ligne. Elle encourage surtout les adolescents à se tourner vers la science. C'est la première fois qu'elle s'exprime en France. Gitanjali Rao, enfant de l'année 2020 pour Time Magazine, c'est l'invité du Tête à Tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous.